Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 16 mai 2017. Alors des semaines qui commencent comme ça, on signerait tout de suite pour en avoir tous les lundis. Alors que les indices semblaient un peu fatigués en fin de semaine dernière, que le nombre de nouvelles passionnantes avait l'air de s'assécher un peu, les investisseurs ont ressorti leur chéquier et sont repartis à l'assaut des sommets. Hier, le Nasdaq et le S&P ont encore battu des plus hauts historiques pendant que l'Angleterre et l'Allemagne faisaient de même. La France aussi, dans une moindre mesure, puisque le CAC 40 a toujours du retard et est encore loin de ses plus hauts, mais avec l'arrivée du Messie et de son pote barbu à l'Élysée, ça devrait bien se passer. Ça ne doit plus être qu'une question de semaine, si ce n'est de jours, pour que la France rattrape son retard et devienne probablement la plus grosse puissance économique mondiale après avoir mis la pâtée à la Chine. Quand on vous dit que Macron peut faire des miracles, il faut y croire. Mis à part cela, la journée fut belle pour deux raisons. Raison numéro une, parce que les titres de la technologie et surtout de la cybersecurity étaient en folie. Je vous l'avais prédit hier matin. Bon d'accord, il n'y avait pas besoin d'avoir pris boule de cristal comme étude à l'école pour deviner que tout le monde allait se jeter sur le secteur avec la vague de WannaCry qui nous est tombée sur la tête ces derniers jours. Il était inévitable que les génies de la finance, que dis-je, les visionnaires de l'investissement que nous sommes, se jettent sur des hacks, des cyber, des Symantec, des Palo Alto et autres FireEye, sans compter les moins connus comme Sophos Group en Angleterre ou l'ETF iSpy, le bien nommé. Et en raison 2, le marché est aussi monté parce que le pétrole n'est plus aussi pourri qu'il l'était il y a 10 jours. C'est tout de même hilarant parce qu'il y a tout juste une dizaine de jours, Goldman Sachs avait commencé à tourner la veste sur le baril et avait laissé entendre qu'il pourrait éventuellement ressortir leur scénario d'un baril à 20 comme il y a 18 mois, eux qui étaient chaud bouillant sur le prix du pétrole au début de l'année. Et juste au moment où ils commencent à se dire que ça pourrait mal tourner, l'or noir fait une accélération baissière, frôle les 44$, se retourne et depuis, il a repris 13% en cette séance. Il y a de quoi se demander si Goldman Sachs ne ferait pas mieux de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, à savoir le marché des actions. Non, parce que depuis que Murthy, le gars qui avait prédit que le pétrole irait à 300$, on a l'impression que la banque américaine fait exprès de faire l'inverse de ce que fait le baril. Donc, le pétrole frise à nouveau les 50$. On a appris que les rois du pétrole, justement, avaient validé la prolongation d'une coupe de production pour 3 mois de plus. Il n'en faut donc pas plus pour commencer à se chauffer pour le prochain meeting de l'OPEP qui aura lieu le 25 mai à Vienne. Là, tout de suite, tout le monde est convaincu, ou presque, qu'ils vont nous revenir avec un plancher technique digne de la BNS pour empêcher l'or noir d'aller plus bas à vie. La conjonction de ces deux facteurs a fait monter les marchés, mais calmons-nous, les indices n'ont pas non plus pris 10% dans la séance, ce sont des hausses modérées. En même temps, 10% actuellement, c'est le niveau de la VIX, la volatilité des marchés, et quand on parle de 10% pour la VIX, ça veut dire que le risque qu'il se passe quelque chose est à peu près aussi élevé que la probabilité que je gagne Roland-Garros cette année. Il ne se passe donc rien et les marchés sont en mode jeu de société. Et actuellement, nous jouons à hâte-toi lentement, mais hâte-toi lentement en direction des plus hauts, des records et de tout ce qui peut nous faire croire que les marchés ne seront plus jamais faibles. Autrement, pendant que les indices battaient des records d'altitude, la Corée du Nord continuait de chauffer les USA avec ses tests de missiles en expliquant que dorénavant, l'Amérique du Nord était à portée de tir. On ne peut pas nier le fait que le petit obèse nord-coréen est persévérant dans son intention de se suicider, parce qu'à force de jouer au couillon avec un président qui est tout juste un peu moins cintré que lui-même, on peut quand même se demander s'il n'a pas une pathologie psychiatrique là-derrière ou une envie de se faire très très mal. Mais peu importe, actuellement, si l'on regarde uniquement le comportement des marchés, ils ont l'air de se foutre totalement de ce qui pourrait éventuellement se passer en Corée. De toute façon, depuis que Macron est arrivé, il ne peut plus rien nous arriver, n'est-il pas? Dans la série Takeover, la société Patheon s'est fait avaler par Thermo Fisher pour un peu plus de 7 milliards, soit une prime de 33%. Atlantia lance une offre de rachat sur Abertis en Espagne pour près de 18 milliards d'euros, mélange d'actions et de cash, ce qui pourrait créer le plus gros opérateur d'autoroute en Europe. Et puis, n'oublions pas non plus que le président chinois Xi Jinping a annoncé qu'il signait un chèque de 100 milliards pour booster son projet d'infrastructure One Belt, One Road. Les intervenants ont aimé l'annonce d'investissement pour toutes les ramifications que cela peut avoir, et du coup, on a oublié de parler des chiffres économiques chinois publiés hier matin, et qui étaient tout pourris. Mais comme d'habitude en finance, pas vu, pas pris. Le pétrole vaut 49,05 et l'or, qui semble vouloir tenter à nouveau un retour vers les sommets, se traite à 1 234 $. Reversal en cours. Ce matin, le Japon est péniblement en hausse et Hong Kong et la Chine sont péniblement en baisse. Nous voici donc au mois de mai et je n'ai toujours pas vu ou lu un article sur le classique Sell in May and Go Away. Il est vrai que lorsqu'on accroche des records tous les jours, ce n'est pas simple de venir dire du mal, et pourtant. Oui, pourtant, quand je regarde les médias ce matin, on a le sentiment que dans les fêtes, on bat des records, mais en théorie, on ne retient que les mises en garde, comme quoi on va finir par se la prendre. Ça tombe bien, la volatilité n'est pas chère, il est donc temps de se protéger. Mais ceci mis à part, ce matin, c'est frappant. Tout d'abord, il y a Ray Dalio qui nous dit depuis quelques jours, en substance, que tout va bien, que les marchés sont en forme et qu'ils pourraient éventuellement, peut-être, c'est pas sûr, aller plus haut. Mais en même temps, il nous met en garde comme quoi la prochaine correction crash pullback, baisse violente, devrait pouvoir éventuellement être épique, mais seulement s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. En résumé, il nous dit qu'un jour ça va baisser et que ce jour-là ça va faire super mal. Ou pas. Et puis, il n'y a pas que lui. Ce matin, il y a un gars qui est stratégiste chez un broker dont personne n'a entendu parler depuis 6 mois, qui vient nous dire que selon ses graphiques, il y a une divergence entre le Dow Jones industriel, le gros qui vaut presque 21 000, et le Dow Jones Transportation. Historiquement, ça veut dire qu'il ne faut pas acheter des actions. Sauf les fois où ça n'a pas fonctionné. Comme le Sell in May and Go Away. Ça fait déjà 2 qui nous disent qu'après la hausse, il y a la baisse. Un peu comme quand le type de la météo, il nous dit qu'après la pluie, il y aura le beau temps. Fondamentalement, il n'en sait rien, mais il sait qu'un jour, il aura bon. Bon, à sa défense, la météo est une science, contrairement à la finance, qui voudrait être une science, mais qui reste quand même un tout joli casino. Et puis, pour corroborer ces deux théories, on a aussi Goldman Sachs qui nous dit que, selon eux, le rallye pourrait bientôt se mettre debout sur les freins. Pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez ce que cela signifie, surtout que si Goldman le dit, c'est que c'est vrai. Tout ça pour vous dire que les marchés montent, mais que la plupart des intervenants du monde merveilleux de la finance prennent le temps de peaufiner leur stratégie de « je couvre mon cul juste au cas où ». Oui, parce que la logique est assez simple, comme d'habitude, si je crie au loup toutes les 5 minutes, à la fin, personne ne m'écoute plus, mais je vais forcément avoir raison un jour. Et je vous dis pas, ce jour-là, ce jour-là, je pourrais descendre les Champs-Élysées ou la rue du Rhône sur un char tiré par un cheval blanc, une cape sur le dos, alors que des hélicoptères me jetteront des pétales de rose sur le dos avec une grande pancarte accrochée dans mon dos qui dira, avec des lettres de 6 mètres de haut, « Je vous l'avais dit !» Donc juste pour des raisons de sécurité personnelle et pour assurer ma gloire personnelle aussi, je vous prierai de bien vouloir lire et imprimer les quelques lignes ci-dessous, de les garder précieusement, afin que le jour où le marché se pète vraiment la figure, je puisse reprendre cette chronique et vous dire « Je vous l'avais dit !» Greffier, notez, je vous prie. Après 215% de hausse sur le S&P 500 et la volatilité qui se traîne au plus bas depuis 24 ans, je pense, moi, personnellement, que le marché va finir par se péter la figure méchamment. Je profiterai donc d'acheter de la protection afin de ne pas perdre trop d'argent dans le crash qui va inévitablement se produire d'ici demain ou dans les 23 années à venir quelque part. Il se peut bien sûr que le marché continue de monter, mais si jamais il baisse, ça va être monstrueux et on pourrait corriger de plein de pourcents et ne jamais s'en remettre. Merci greffier d'avoir pris note. Voilà, ça c'est fait. Nous sommes le 16 mai 2017, j'ai dit que le marché pourrait se casser la figure un jour peut-être. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'avais pas dit. Ça s'appelle du hedge, de la protection. C'est ce qu'on fait quand la volatilité est basse. On en profite pour acheter de la protection. Moi je fais plus fort, c'est gratuit. Et ça crache demain, je suis un demi-dieu et je peux me multiplier les Ferrari jusqu'à la fin de mes jours. Bon, maintenant on peut retourner au bull market. Dans les nouvelles passionnantes du jour, on retiendra que Macron-Merkel, le couple M&M's, a promis de renforcer l'Europe. On n'a pas fini de rigoler. On apprend aussi que Trump veut mettre un politicien à la tête du FBI. Là aussi, on n'a pas fini de rire. Du côté de Naples, on se prépare à l'éventualité d'une éruption volcanique, selon les scientifiques. Ford va réduire 10% de son staff, Federer n'ira pas à Roland-Garros, et Trump a partagé des informations confidentielles classifiées secrètes avec le ministre russe des Affaires étrangères lors d'un meeting la semaine dernière. Ça devient carrément hilarant et je pense même que Bourvil et De Funès n'auraient pas rêvé des trucs pareils. Le baron s'éboule sur les bancaires, ils aiment Cisco qui est parfait pour jouer la cybersécurité selon eux, et puis ils dévoilent les derniers commentaires de l'analyse de chez Goldman Sachs, encore eux, qui pensent que Nvidia vaut au moins 165$ alors qu'il y a 3 jours c'était que 130. Le titre a littéralement explosé lors de la publication de son trimestre la semaine dernière, c'est de la folie, et ça ne vaut que 75 milliards de capitalisation boursière. Apple pourrait l'acheter 3 fois, il leur resterait du cash pour aller à Vegas. Alors qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent du côté trimestriel, ni côté chiffres économiques, si ce n'est le GDP en Europe et le ZEW en Allemagne et la production manufacturière en Europe plus le Redbook, je voudrais vous recommander un article du Temps à propos du sondage effectué par l'ASB. Oui, j'en ai déjà parlé hier, et ce sondage dit que 95% des sondés, bien qu'on ne sache pas qui ils sont, mais qu'on soupçonne fortement de vivre dans un monde parallèle, ou alors le panel est de 100 personnes et ils sont tous banqués de père en fils et les 5 qui ne sont pas d'accord se sont fait virer hier. Donc 95% pensent que leur banque elle est trop cool et que leur banquier il est trop compétent, beau et intelligent et que leur banquière elle porte des slips couleur chair. Comprennent qui pourra. Il faut vraiment lire l'article en question et en détail parce qu'il y a des passages mythiques. Et puis ce qu'il y a de bien dans cet article, c'est qu'il fait plaisir à tout le monde. Oui, à l'ASB, parce qu'ils ont quand même fait un super bon boulot, au patron des banques, parce que les sondés sont vachement contents d'eux, et en plus d'être contents, ils sont visionnaires et ont tout compris sur les enjeux du futur de la banque et de la fintech. Si vous êtes client d'une banque, vous allez tout de suite vous trouver extrêmement brillant et intelligent, et pour terminer, si vous êtes un employé de banque, vous allez avoir envie de le crier sur les toits, contrairement à ce qui se passe depuis 2008, parce que dans cet article, on a le sentiment qu'il y a deux métiers qui comptent dans le monde en ce moment, président de la France et banquier. Ah bah tiens, le président de la France, il était banquier. Tout se recoupe. Non, sérieusement, lisez l'article, il suffit de savoir que ce sondage reflète le bon sens helvétique et tout est dit. Bon, c'est pas tout ça, mais je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain si vous le voulez bien.